Bonjour et bienvenue dans le podcast « L'innovation en pratique » de la Discool Paris de l'École des Ponts Paris Tech. Notre ambition est d'inspirer une nouvelle génération d'innovateurs par la pratique, entre autres, du design thinking. Pour notre quatrième saison, nous aborderons des thématiques autour des expertises en innovation et design explorées par la Discool Paris. Nous vous proposons donc de nouveaux intervenants autour d'univers différents comme le design thinking, le design fiction et le design soutenable. Et qui, j'espère, vous inspireront autant que nous. Bonne écoute!
Bonjour, je suis Valentine Perrin de l'équipe de la Discool Paris et aujourd'hui je suis en compagnie de Florie Bugeaud-Raymond. Florie, tu es docteur en sciences de service, designer de service et designer systémique depuis 15 ans, fondatrice de BeWoo, un organisme dédié à l'éco-conception de services. Bonjour Florie.
Bonjour Valentine.
À travers cet épisode, j'aimerais approfondir le sujet de l'éco-conception. Pour commencer, pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours et de BeWoo, d'où est née cette initiative et où est-ce que tu en es aujourd'hui ?
Oui, avec plaisir Valentine. Alors au niveau du parcours, moi j'ai démarré en fait dans l'informatique et la gestion des entreprises au départ, avec un cursus universitaire MIAGE, donc c'est méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises, que j'ai fait licence et master à Paris. Et à l'issue de ce master, j'ai eu l'opportunité de faire une thèse CIFRE. Alors d'un côté du coup chez France Télécom R&D, qui s'appelle Orange Labs, et puis de l'autre côté avec le laboratoire Texico de l'Université de Technologie de Troyes. Et cette thèse, elle portait, alors elle a évolué hein, sur les 3-4 années de thèse, comme toute thèse de doctorat, mais elle portait globalement sur la question de la modélisation des services pour typiquement un opérateur télécom qui se posait la question de comment je peux représenter, modéliser mes services et comment je peux identifier là-dedans des opportunités business à proposer à mes clients. Donc, j'ai vraiment travaillé à ce moment-là sur la question de c'est quoi un service. Et c'est comme ça que je suis, entre guillemets, tombée dans la systémie en redéfinissant le concept de service comme un système complexe, multidimensionnel, multicouche, et donc la nécessité, quand on veut le modéliser, de réussir à modéliser et à comprendre l'ensemble de ses dimensions et l'ensemble de ses couches de bout en bout. À la suite, du coup, de mon doctorat, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles, soit en interne des entreprises, soit en externe, mais toujours en tout cas sur la question de ce qu'on n'appelait pas il y a 10-15 ans encore design de service, mais ça l'était déjà et c'était vraiment très orienté comment on comprend le contexte d'un système de service, comment on le modélise, comment on imagine, enfin on identifie plutôt d'abord des besoins, des problématiques et comment on va identifier des solutions de type système de service à mettre en place pour répondre aux besoins des clients et utilisateurs. Et aujourd'hui, effectivement, on appelle ça maintenant design de service, même si c'est encore pas suffisamment répandu à mon goût en France. Donc j'ai eu un certain nombre d'années d'expérience là-dessus, et dont 7-8 années chez un gros industriel de l'aéronautique, avec un poste de responsable de l'entité d'innovation par les services. Et puis j'ai décidé, du coup, à la sortie du Covid, de démissionner et de créer effectivement BeWoo. Comme tu le disais, c'est un organisme un peu spécial et un peu unique sur la question de l'éco-design, l'éco-conception des services. C'est à la fois du coup moi, entre guillemets, avec mes compétences de designer systémique, designer de services, et puis ce regard sur la dimension environnementale et toute la démarche que j'ai créée autour. Et c'est aussi un collectif du coup d'indépendants et d'experts en ingénierie, éco-conception, en design UX, service, en graphisme éco-responsable, développement éco-responsable. Donc l'idée, c'est aussi de partager un certain nombre de valeurs ensemble et de pouvoir intervenir un peu main dans la main en réponse à un besoin d'un client.
Ok, super. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste l'éco-conception de service ?
Alors, l'éco-conception de service, eh bien, c'est de l'éco-conception. Assez classiquement, on va dire, c'est à mettre en parallèle évidemment avec l'éco-conception de produits, qui est une démarche de type amélioration continue pour identifier, réduire l'ensemble des impacts environnementaux d'un produit, pour le coup physique, tangible, tout au long de son cycle de vie. Et bien de la même manière, en fait, l'éco-conception de service va consister en la modélisation, la compréhension du cycle de vie du système de service auquel on a affaire, l'identification des différents impacts, alors environnementaux bien sûr, mais on peut remonter d'un cran aussi pour aller vers plus d'éthique et on peut aussi parler d'environnement, d'impacts sociaux par exemple. Et donc de pouvoir là aussi les identifier et les réduire au maximum tout au long du cycle de vie du service. Et moi, j'ai vraiment voulu travailler sur cette démarche d'éco-conception de service en prenant conscience, quand je me suis formée à l'éco-conception, que finalement, les démarches actuelles, que ce soit l'éco-conception classique ou même le design circulaire, se prêtaient beaucoup mieux à des objets physiques, une fois de plus, une table, une chaise, une voiture, un téléphone, une bouteille d'eau, peu importe, qu'à un système de service qui, comme je le disais tout à l'heure en introduction, est vraiment multidimensionnel, multicouche, très complexe. Donc, je me suis vraiment focalisée là-dessus et je me suis rendu compte que finalement, allier design de service au sens design systémique et éco-conception, qui est plutôt une démarche d'ingénierie à la base, ça fonctionnait plutôt pas mal et qu'on avait des choses à faire ensemble, avec une démarche commune, un vocabulaire commun, des outils communs, pour pouvoir réussir à la fois prendre en compte la dimension humaine, comme on le fait très très bien en design classique, mais aussi la dimension, alors je mets des gros guillemets, on ne me voit pas parce qu'il n'y a pas d'image, mais la dimension, on va dire, planète, et s'assurer que on ne soit pas trop anthropocentré, mais qu'on ne soit pas non plus trop éloigné des vrais besoins des utilisateurs et des clients pour ne regarder que la dimension planète, mais que voilà, on soit vraiment dans une démarche qui encapsule les deux et qui les mixte vraiment de manière très fine pour à la fois répondre à des besoins fondamentaux humains. Et en même temps, du coup, respecter tout simplement nos écosystèmes.
Oui, c'est intéressant parce que tu es très proche de la démarche qu'on essaye de développer. Du coup, à la Discool, il y a pas mal de points de connexion. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu en es venu à remettre en question ou du moins à faire évoluer la démarche dite classique, entre guillemets, du design de service?
Oui, alors en fait, c'est le résultat de nombreuses années en fait d'expérimentation et de mise en œuvre de cette démarche de design de service. Où petit à petit, finalement, il y a eu des doutes quelque part qui se sont installés en moi. Les doutes, ils se sont positionnés en plus tout au long de la démarche et pas seulement sur une des étapes qui aurait pu poser problème. C'est que je me suis vraiment rendu compte que l'ensemble des étapes posait problème. Je vais te donner juste quelques exemples et j'en parle souvent, mais je trouve que c'est important, donc je vais me permettre d'insister, tant pis, sur la notion de besoin qui est quand même au cœur de la démarche de design, et peu importe à quelle chapelle on appartient, service, UX, CX, enfin peu importe. Le besoin, la question du besoin, elle est clé dans nos démarches. Et je me suis rendu compte d'année en année qu'on n'adressait pas tant des besoins réels que des envies ponctuelles, des souhaits de faire comme le concurrent. Voilà, j'avais vraiment de plus en plus une difficulté à bien caractériser cette notion de besoin et à me dire, je ne suis pas en train de faire un service juste pour faire plaisir, en fait. Donc ça, déjà, c'est des éléments qui, petit à petit, quand je disais, je parlais de doutes tout à l'heure, c'est des doutes qui ont commencé à s'installer. Et puis, assez naturellement, comme j'ai vraiment cette perspective systémique et multidimensionnelle un peu au quotidien, même dans ma tête et dans ma manière de fonctionner, je me suis rendu compte je ne cessais d'expliquer aux gens qui me posaient la question que la démarche de design de service était multidimensionnelle et qu'on s'attaquait à la dimension physique, spatio-temporelle, économique, affective, etc., etc., d'un service. Et puis, plus je le disais, plus je me disais, mais je dis jamais la dimension environnementale. Mais parce que tout simplement, on ne la prenait pas en compte. Et malgré mes recherches dans la littérature ou même dans le concret, dans des projets qui ont été réalisés un peu partout, j'avais du mal à trouver cette dimension-là. Je me disais, finalement, c'est quand même incroyable. On est face à des enjeux qui sont énormes pour l'avenir, tout simplement, de l'humanité. Et on ne prend absolument pas en compte cette dimension, comme si, contrairement à un produit physique, un service, ça n'avait aucun impact. Comme si c'était un peu magique, et que finalement, on pouvait faire du service parce que c'est intangible, et que donc, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il y a des éléments comme ça qui m'ont mis le doute petit à petit, même dans la manière aussi de concevoir, de trouver des solutions, de les rendre tangibles, etc. Je me disais, mais finalement, j'ai l'impression de participer au problème, quoi, de participer. Malgré moi, aux impacts tout simplement qu'on initie. Et donc j'ai de plus en plus pris du temps pour me renseigner sur ces éléments-là, en particulier pendant la phase des confinements du Covid où j'ai eu largement le temps de m'intéresser à tout ça. Je suis tombée aussi, je le dis souvent, mais je suis tombée sur un chiffre qui m'a marquée, c'est le chiffre de la Commission européenne, enfin d'une étude de la Commission européenne qui nous dit que 80% des impacts d'un produit ou d'un service sont alors observable, détectable dès la phase de conception. Et ça a été un peu un choc pour moi, parce que je me suis dit, mais la phase de conception, c'est moi, c'est nous, c'est les designers, pas que, on est nombreux. Et c'est des phases qui sont pluridisciplinaires, mais on a quand même une grosse responsabilité sur la phase de conception. Et le 80% m'a vraiment choquée et a fait remonter tous les doutes dont je parlais d'un coup, en me disant, OK, maintenant, il faut que ça change, et il faut que nous aussi, designers de services, comme les ingés et co-conception de produits, on a une démarche qui nous permette tout simplement d'avoir des services qui soient réellement utiles et surtout qui soient les plus vertueux possibles.
Effectivement, tu nous parlais de l'impact produit à travers cette démarche-là. Quelles sont, d'après toi, les principales limites que tu as pu identifier dans le processus?
Alors, dans le processus d'éco-conception de service, de design de service ou
Oui,
de...
de design de service.
D'accord. Alors, les limites, je le disais, elles sont à différents endroits dans la démarche. Elles sont dès l'amont, quand on commence à explorer en fait un sujet, une idée ou même un service existant sur lequel on veut faire plutôt une phase de reconception de service. Dès cette phase-là, en fait, on voit que la plupart du temps, 99,9% des fois, on ne regarde absolument pas déjà la dimension environnementale à cette étape-là. Donc, on ne va pas regarder dans quels écosystèmes, potentiellement au pluriel, se situe déjà ce sujet, cette thématique, ce service existant ou cette idée. Quand on va, par exemple, explorer un sujet, on va regarder un petit peu quels sont les acteurs, les parties prenantes concernées, éventuellement où ça se situe, les flux qu'il peut y avoir, et puis finalement, ça va un petit peu s'arrêter là. Donc, on n'a absolument aucun regard, en tout cas dans la démarche classique, sur, OK, tout ça, ça a lieu dans des écosystèmes. Quels sont ces écosystèmes? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vivant, de non-vivant, d'humain, de non-vivant, pour comprendre déjà un petit peu ce qui est en place. Toujours sur cette phase d'exploration, on prend aussi en design de service classique, en design tout court d'ailleurs classique, du temps aussi pour comprendre justement ces parties prenantes et travailler sur leurs différents profils. Et quand on fait ça, de la même manière, généralement, on ne se pose pas la question de la dimension environnementale. Donc on ne va pas questionner la sensibilité de ces parties prenantes à ces questions-là, à ces enjeux-là, pour ensuite pouvoir finalement driver tout le reste de notre démarche de conception de service jusqu'à l'industrialisation et le lancement sur le marché du service. Ça, c'est vraiment des exemples sur la première phase. Ensuite, quand on va rentrer plutôt en phase un petit peu d'identification d'un concept de service à forte valeur ajoutée, bah là aussi, du coup, si on n'a pas réfléchi à tout ça en amont, on va imaginer un concept de service sans regarder dans quels écosystèmes il va se positionner et donc quels impacts il pourrait avoir sur ces écosystèmes. Qui va subir ou non des impacts, les impacts de la mise en place d'un nouveau service ou de la modification d'un service. On va aussi, du coup, pas forcément regarder la valeur ajoutée pour ces écosystèmes-là. On va plutôt se centrer sur la valeur ajoutée pour l'humain. Qu'est-ce que ça apporte à l'humain? Donc, je disais tout à l'heure, hein, on est plutôt sur en quoi ça fait plaisir et en quoi c'est désirable pour l'humain. On s'inquiète pas du tout des conséquences. Sur les écosystèmes, et on ne s'inquiète pas non plus de se dire finalement, au passage, on pourrait peut-être essayer d'avoir une valeur ajoutée pour ces écosystèmes. Et on parle de plus en plus de design régénératif, et ça va un peu dans ce sens-là aussi. Sur les phases suivantes, qui vont être des phases plutôt justement de conception pure, où on va commencer à tangibiliser, tester notre service, là, il y a plusieurs éléments. Il y a déjà nos pratiques à nous, la manière même dont on tangibilise et teste ces services. On peut aujourd'hui utiliser des manières de faire, des outils qui vont être déjà moins impactants, rien que déjà sur cette étape-là. Plus, on a pour moi le devoir aussi d'imaginer, quand on imagine des scénarios pour un futur service, eh bien d'imaginer des scénarios qui soient plus vertueux. Et donc se dire, bah, il y a un scénario un petit peu classique, traditionnel, qui est celui-là. Est-ce que je ne peux pas finalement imaginer des scénarios dans lesquels le service aurait moins d'impact tout en rendant service au client et à l'utilisateur, et imaginer pourquoi pas des options à proposer. Donc là aussi, on pourra en rediscuter tout à l'heure, mais c'est toute une notion, enfin tout un vrai questionnement de se dire est-ce que je propose des options, est-ce que je force à passer à quelque chose de vertueux, est-ce que je force des gens à renoncer aussi à certains services. Il y a un vrai questionnement à avoir là-dessus. Et puis dans la dernière phase, qui est plutôt la phase où on va un peu délivrer le résultat de tout ça vers les équipes qui vont s'occuper de l'industrialisation et du lancement commercial du service. Là, on va aussi avoir des questions importantes et on va avoir en particulier un rôle sur les recommandations qu'on va pousser à ces équipes-là pour que derrière, au niveau de l'industrialisation, les bons partenaires soient choisis, des partenaires qui soient aussi dans une démarche vertueuse, les bons outils soient choisis, les bons objets, si objets il y a, soient choisis et éco-conçus, et que finalement, in fine, on ait bien à la fin un service qui ait bien été éco-conçu. Le risque que je vois là, c'est justement, il y a pour moi un point d'accroche hyper important entre les équipes, pas que designers, mais pluridisciplinaires, qui sont sur les phases de conception et test, et puis les équipes qui, assez souvent, finalement, ne sont pas les mêmes, mais qui vont être en charge plutôt de l'industrialisation, du développement, si développement il y a, et puis du lancement commercial, enfin marketing commercial, communication. Il peut y avoir un vrai décrochage en fait entre les deux, c'est-à-dire que on peut très bien proposer un service, enfin imaginer un service éco-conçu le plus vertueux possible. Si derrière, les équipes suivantes qui prennent le relais pour l'industrialisation ne suivent pas ces recommandations-là, on aura certainement travaillé pour rien. Donc c'est important aussi de s'assurer que l'ensemble de la chaîne, entre guillemets, j'aime pas trop, mais la chaîne de production du service, en quelque sorte, elle soit sensibilisée, formée, que chacune dans sa discipline, mais aussi en cross-discipline, et bien compris les enjeux, ils soient en capacité de recevoir, entre guillemets, cette conception vertueuse pour en faire quelque chose, in fine, qui sera vertueuse sur le terrain, quoi.
Donc, de ce que je comprends, tu repars d'outils déjà existants que tu fais évoluer. Pourquoi, du coup, est-ce que c'est utile de repartir d'un modèle qu'on connaît et de pas tout réinventer?
Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, on repart beaucoup d'outils existants, bah déjà parce qu'effectivement, on a la chance qu'ils existent et qu'ils soient éprouvés depuis de nombreuses années. On sait que c'est les modèles qui fonctionnent. Côté design de service, on a des outils qui nous permettent déjà d'être multidimensionnels. Donc finalement, ce n'est pas très compliqué, en quelque sorte, de se dire, je vais regarder, comme je le disais tout à l'heure, le physique, le spatio-temporel, l'économique, l'affectif, etc. C'est pas très compliqué de se dire, je vais regarder aussi la dimension environnementale. En tout cas, d'un point de vue intellectuel, ça pose pas spécialement de problème. La seule chose pour moi, et le warning que je mets souvent et que je mets en avant aussi dans le livre que j'ai écrit, c'est attention à ne pas en faire juste une dimension de plus, qui arriverait un peu à la fin de l'histoire en disant, ah mince, c'est vrai, faut aussi que ce soit écolo. Il faut vraiment que ce soit plutôt une dimension qu'on prenne à cœur et qu'on intègre de manière très transversale aux autres. Parce que réfléchir à la partie physique, spatio-temporelle ou économique d'un service, c'est très différent de le réfléchir de manière classique ou de le réfléchir avec les enjeux environnementaux, écologiques, de biodiversité, etc. en tête. Donc ça, c'est déjà un point important. Et donc forcément, ça nécessite de modifier les outils qu'on a. On a des super outils, en design systémique en particulier, pour modéliser des systèmes complexes. Simplement, le faire au regard de cette dimension transversale qu'est l'environnement, eh bien, ça nécessite de le faire un peu différemment et d'intégrer des éléments qu'on n'avait pas l'habitude d'intégrer. Et en particulier, je parle beaucoup depuis 15 ans, depuis ma thèse de doctorat, de la notion d'actant, qui est une notion pour moi qui est hyper fondamentale, qui positionne en fait l'ensemble des éléments hétérogènes qui vont participer à un système de service, à une situation de service, y compris les non-humains. Donc c'est très différent de la notion d'acteur ou de partie prenante, derrière laquelle on entend souvent acteur humain, partie prenante humaine ou organisationnelle au mieux, on va dire, l'entreprise, l'asso, etc. La notion d'actant qui est empruntée aux travaux de Bruno Latour, c'est vraiment une notion beaucoup plus vaste, qui va inclure du vivant, du non-vivant, du matériel, du non-matériel, mais ça va vraiment être tous les éléments qui interviennent à un moment donné dans une situation qu'on peut vivre. Là, la situation qu'on est en train de vivre, toi et moi, pour enregistrer ce podcast, elle est intéressante, c'est un bon exemple. Il y a toi et moi, en tant qu'actrice de cet enregistrement et de cet épisode, mais il y a nos micros, il y a nos ordinateurs, il y a la connexion Internet qu'on utilise, puisqu'on le fait en visio en l'occurrence. Il y a aussi l'énergie qu'on va utiliser toutes les deux, chacune de notre côté. Il y a éventuellement, si on s'était déplacé pour aller dans un studio, le déplacement. Il y a tous ces éléments-là, en fait, qui sont intéressants à prendre en compte et pas uniquement toi et moi dans une interaction purement humaine. Donc, ces outils-là, on a des choses qui existent, tu as raison, et il faut les tordre quelque part, les retravailler pour pouvoir les prendre en compte. Il y a des outils aussi côté éco-conception un peu classique, ingénierie, en tout cas d'éco-conception qui sont intéressants, entre autres le cycle de vie. Et le cycle de vie, assez rapidement, moi j'ai été assez critique parce qu'il existe depuis des dizaines d'années un cycle de vie produit qui fonctionne très bien et qui nous dit en gros, un produit, ça se conçoit. Ensuite, bah, il faut aller extraire des matières premières, des ressources pour pouvoir le fabriquer. Une fois qu'on a ces matières premières, bah, c'est envoyé dans une usine pour pouvoir fabriquer des composants, etc., et puis l'assembler. Et puis ensuite, il va y avoir une phase de distribution. Donc, le produit va être amené dans les magasins ou bien va nous être livré, etc. Une phase d'utilisation de cet objet. Une phase éventuellement de réparation, maintenance de l'objet. Et puis ensuite, se pose la question de la fin de vie. Est-ce qu'on va le réutiliser dans un cycle suivant? Est-ce qu'on va le recycler, le démonter, etc. Ou est-ce qu'on va tout simplement le jeter parce qu'il n'est plus utilisable? Et en fait, ça, ce cycle de vie, il fonctionne très très bien pour un produit physique, mais pour un service, parler d'extraction de matières premières ou d'une usine dans laquelle on fabrique un service, ça n'a pas de sens. Donc du coup, on a vraiment retravaillé l'ensemble du cycle de vie. Alors moi, j'avais ma perspective designer avec l'idée que voilà, on le conçoit, on va le tester, etc. Ensuite, on va l'industrialiser, le mettre sur le marché, etc. Et en discutant avec le pôle éco-conception, qui est à Saint-Étienne et qui est un partenaire de Biwo, on s'est rendu compte qu'on avait un peu les mêmes questionnements autour des services. Et du coup, eux aussi avaient travaillé sur cette notion de cycle de vie. Et on a fini par effectivement être en capacité de sortir et proposer un cycle de vie vraiment spécifique aux services, qui, bien entendu, dessous, en sous-jacent, fait appel à des cycles de vie plutôt produits, plutôt numériques, puisque, bien évidemment, quand on crée un service, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, on ait un objet ou plusieurs objets physiques sous-jacents, ou bien du numérique, un logiciel, une application, un site web. Donc, on va avoir un espèce de cycle de vie un peu macro sur l'ensemble du service, de l'offre. Et puis, dessous, on va faire appel à des mini-cycles de vie sous-jacents pour les éléments qui seront dans le service. Donc voilà, il y a des outils qui existent, il y a aussi des outils à créer. Je suis assez persuadée que du coup, la démarche que moi j'ai appelée Green Service Design, elle en est vraiment qu'à son tout début. Et on va sûrement, dans les mois, les années à venir aussi, trouver, imaginer des nouveaux modèles pour nous faciliter un petit peu les choses et être en capacité de construire une espèce de boîte à outils spécifique, avec des bases de données, des bases de cas aussi, d'études de cas qu'on pourra partager pour alimenter tout le monde et faire en sorte que ce soit le plus répandu possible.
J'aimerais faire un petit zoom sur un outil dont tu parles justement dans ton ouvrage pour présenter ta démarche Green Service Design, c'est l'outil des personas qui est aujourd'hui très répandu justement en entreprise, dans le système éducatif également. Je me demande comment est-ce qu'on peut concevoir un persona pour un non-humain vivant ou non-vivant. Comment est-ce qu'on acquiert l'information? Comment est-ce qu'on construit ces personas?
Alors, la première chose déjà, c'est de les identifier avant même de les construire. Et je parlais tout à l'heure d'Actan et la modélisation justement de notre système de service en tenant compte de ces actants fait émerger du coup forcément des entités hétérogènes, comme je le disais tout à l'heure, qui vont être non humaines. Donc, par exemple, sur des projets récents, j'ai vu apparaître des actants qui vont être, par exemple, la graine qu'on plante. Donc, ça peut sembler très, très loin de la notion de service. Mais quand on est sur un service de sensibilisation, par exemple, à l'alimentation durable, bah, au fond du fond, si on veut présenter des produits, les faire tester des recettes, des choses comme ça en atelier, comme j'ai eu le cas avec une entrepreneur que j'ai accompagnée, eh bien oui, si on creuse, en fait, si on tire le fil et qu'on modélise correctement l'ensemble du système de service, on ne va pas avoir seulement l'animatrice de ces ateliers, les producteurs de produits alimentaires variés, éventuellement les distributeurs, etc. Ça, c'est vraiment une vue acteur, justement, partie prenante. Si on creuse, on va aussi avoir effectivement jusqu'à la graine même, le produit puis sa graine. Et donc, ça devient intéressant d'aller regarder typiquement cette graine-là, eh bien, quel est son profil? Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais de quoi elle a besoin, cette graine? De quoi elle a besoin pour bien pousser? Quelles sont les contraintes qu'elle a? Quelles sont les problématiques qu'elle rencontre? Parce que si finalement, on conçoit un service sans prendre ça en compte, eh bien, peut-être qu'on va faire face à des difficultés de rendement aussi agricole par rapport à cette graine, parce qu'il y a des sécheresses, parce que on sait, voilà, avec le changement climatique, qu'on va aller de plus en plus vers des difficultés de ce type-là et vers un rendement agricole qui va baisser de manière forte. Donc, si on ne prend pas en compte cette graine et ses besoins, ses contraintes, etc., on oublie une grande partie, en fait, de ce qui va être intégré au service et de ce qui va être nécessaire pour que, in fine, notre client ait accès au service. Si je veux proposer un service de ce type-là, mais que dans quelques années, les graines qui m'intéressent, entre guillemets, ne peuvent plus pousser, parce qu'on est dans une période, malheureusement, et dans des écosystèmes qui souffrent, mon service, je ne pourrais juste plus le proposer, il n'aura plus aucun sens. Et donc, comment j'amène finalement les gens vers une alimentation durable, ce qui était mon objectif à la base, si j'ai même plus ces ressources-là, à disposition? Donc, c'est un point important. J'ai aussi encadré, soutenu un travail de mémoire, par exemple, au niveau de l'école des Gobelins, d'une personne qui a travaillé sur la question de l'artificialisation des sols. Et le sol est devenu un persona. Et ça, j'ai trouvé ça hyper passionnant parce qu'effectivement, quand on se pose la question de la construction, par exemple, d'un bâtiment, d'une entreprise, d'un entrepôt ou autre, sur un sol, se pose la question, enfin, se pose, en, plutôt c'est l'inverse. Aujourd'hui, la question se pose peu de savoir est-ce que le sol participe de ce système-là, est-ce qu'il a un mot à dire, entre guillemets, sur sa propre artificialisation et son propre usage. Donc, soit je ne le regarde pas du tout et finalement, peu importe, je vais implanter mon usine et puis bah, voilà, tant pis pour les conséquences. Soit je prends en compte l'écosystème qui est en place, je regarde ce sol, sa qualité, ses besoins, ses contraintes là aussi, ses problématiques, la végétation dessus, bien sûr, les animaux qui sont présents aussi, avant de juste tout raser pour implanter une usine. Donc vraiment, la partie, la question de créer des personas actantiels, pour moi, elle est hyper importante parce que du coup, vraiment, ça nous donne un regard totalement différent sur la situation. Et quand je disais tout à l'heure, il ne faudra pas, à partir de maintenant, regarder uniquement la valeur ajoutée pour l'humain, mais aussi pour ses écosystèmes. Bah, c'est typiquement ça. C'est typiquement se dire, bah, il y a mon humain là qui a un besoin, mais à côté de lui, il y a le sol, il y a un animal qui est là, qui est implanté là depuis longtemps, il y a l'océan, il y a, je ne sais pas. Et ces éléments-là, eux aussi, en fait, ils ont des besoins et des contraintes. Et eux aussi, en fait, il faut qu'on respecte ces besoins et ces contraintes, voire même qu'on essaye de leur apporter quelque chose. Et ça remettra, du coup, au même niveau que les acteurs humains, et bien des acteurs non humains, mais essentiels pour nos écosystèmes.
Et du coup, pour aller dans la compréhension des actants, justement, comme tu le disais, par quoi tu passes comme outil? Est-ce que c'est un petit peu des outils de recherche ethnographique, comme on peut le faire dans l'enquête de terrain, de l'observation? Est-ce que tu as des entretiens avec des experts, des scientifiques?
Oui, c'est exactement ça. C'est là aussi, ça va être vraiment un mélange d'outils différents et de pratiques différentes. Mais normalement, en tant que designer, on a un peu l'habitude. Effectivement, il y a une première chose qui est un peu de l'ordre de l'observation déjà, d'aller comme on observe en fait déjà des situations aujourd'hui pour essayer d'imaginer des services. En réalité, ça change pas grand-chose si ce n'est qu'on a un œil différent. On regarde, on observe la scène devant laquelle on est, la situation à laquelle on participe ou non, d'ailleurs, selon le type d'observation, mais d'un œil un peu différent. Voilà, je ne vais pas juste regarder des humains et des flux, je vais aussi regarder justement les actants, les éléments hétérogènes qui sont là. Et comment eux aussi, alors soit participent à la situation que j'observe, soit la subissent,
D'accord.
tout simplement. Et après, effectivement, c'est à croiser. Alors, on n'est pas, en tant que designer, spécialiste de la biosphère, spécialiste d'un certain nombre de questions comme ça, pas du tout. Mais là aussi, l'un des avantages, entre guillemets, qu'on a, je trouve, c'est qu'on a l'habitude de travailler avec des disciplines différentes. Et on est souvent justement à la croisée d'expertises différentes et on facilite souvent ce croisement d'informations et l'émergence d'éléments. Donc là aussi, ce n'est pas une difficulté pour moi, simplement ça nous demande de nous mettre en contact et de travailler avec des expertises avec lesquelles on n'avait pas l'habitude de travailler aujourd'hui. Donc, il y a les ingénieurs éco-conception dont je parlais tout à l'heure, qui ont beaucoup d'expérience déjà sur l'éco-conception plutôt produit. Et puis, il y a aussi oui, des scientifiques, des chercheurs, des experts du sol, par exemple, comme on le disait tout à l'heure, des agriculteurs et des experts des graines aussi, comme je le disais tout à l'heure. Il y a vraiment plein d'expertises différentes sur les champs climatiques, biologiques, etc. Donc, vraiment, il faut qu'on s'appuie sur eux. Et pour qu'on puisse vraiment travailler avec eux, je pense qu'il nous faut, nous aussi, par contre, un minimum de connaissances, au moins de sensibilité. Parce qu'il faut qu'on puisse comprendre ce langage, le vocabulaire, les méthodes aussi qu'ils utilisent pour pouvoir justement être les plus précis possibles après dans ce qu'on fait. Donc, ça nécessite quand même qu'on soit un tant soit peu. Je ne dis pas qu'on devienne des experts, hein, pas du tout. Au même cas, enfin, c'est la même chose. On n'est pas des experts, par exemple, en développement informatique, mais on travaille avec des développeurs pour autant. Donc là, c'est pareil. Mais il nous faut vraiment une base un peu minimum. Et cette base-là, aujourd'hui, il n'y a aucun souci pour l'acquérir parce qu'il existe plein de formations, plein de choses, plein de livres aussi, plein de ressources, en fait, pour pouvoir comprendre ça. Et puis après, je pense que comme toujours, c'est aussi l'expérimentation qui nous fera grandir sur ces sujets-là. Donc plus on expérimentera et plus on collaborera avec des expertises un peu variées comme ça, et plus on sera efficace et plus les services qu'on sort seront les plus utiles possibles, mais aussi les plus respectueux possibles de l'environnement.
Oui, super. C'est une des forces de l'intelligence collective, effectivement.
Oui, tout à fait.
Je me pose une autre question. Quand on parle d'innovation durable, il y a souvent deux champs d'intervention qui s'ouvrent à nous. Il y a à la fois la conception et la reconception. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer la différence, qu'est-ce qu'on met derrière ces termes?
Oui, tout à fait. Alors, généralement, on distingue les deux en disant, en gros, pour la conception, on part un peu d'une feuille blanche. Et pour la reconception, bah, on part d'un service existant, d'une expérience existante. Et on la repasse à la moulinette de la démarche de design parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être parce que, elle rencontre pas le marché. Voilà, il n'y a pas de client. Tout simplement, ça marche pas. Ça peut être parce que, on a le sentiment ou on a très clairement observé qu'elle était obsolète, peut-être par rapport à la concurrence. Enfin, voilà, il y a plein d'éléments différents qui peuvent nous faire penser que ce service-là, il faut le reconcevoir. Donc c'est vraiment effectivement, ça peut paraître être très différent, être deux choses différentes, mais au fond, c'est exactement la même démarche. La seule différence, c'est qu'en amont, dans un cas, on va pas avoir vraiment une page blanche en réalité, parce qu'on dit souvent que la conception, c'est partir d'une page blanche. En réalité, il n'y a jamais une page blanche. C'est-à-dire qu'il y a toujours à minima des actants, justement, qui sont là, une situation initiale, il y a des choses qui se passent. C'est quand même extrêmement rare, voire ça n'arrive jamais, de partir sur un sujet vide, totalement inexploré. Totalement inexistant. Il se passe bien quelque chose quelque part où il y a déjà des éléments. Et la seule différence, c'est que on va soit partir d'un service qui existe et donc sur lequel il y a peut-être déjà beaucoup de choses qui ont été faites, peut-être beaucoup de ressources. On va pouvoir interroger les clients actuels ou les gens qui n'ont pas voulu être clients justement, que l'offre n'a pas intéressé, pour justement identifier ce qui ne va pas et la reconcevoir correctement. Alors que dans la conception, comme je disais, on ne part pas d'une page blanche, mais par contre, on n'a pas de référence par rapport à un service existant. On a une situation, on a des éléments qui existent sur le terrain, mais on n'a pas de service équivalent pour pouvoir comparer et pour pouvoir du coup améliorer. On n'améliore pas, on crée quelque chose. Et du coup, pour faire le lien avec l'éco-conception, c'est typiquement quelque chose qui est important aussi, savoir est-ce qu'on a une situation de référence. Parce que l'éco-conception, je le disais en introduction, est une démarche d'amélioration continue. Donc, on a besoin d'avoir une situation de référence et ses impacts pour identifier quels sont les impacts sur lesquels il faut travailler prioritairement, les réduire, et puis hop, faire un second cycle, un troisième cycle sur lesquels on va continuer à travailler sur les impacts qu'on n'avait pas eu le temps de travailler ou bien sur des nouveaux impacts potentiellement, malheureusement, qui peuvent émerger. Et pour ça, il faut vraiment avoir cette situation de référence et pouvoir ensuite comparer à chaque itération. Où est-ce qu'on en est? Donc du coup, quand on est sur de la conception pure et pas de la reconception, on peut se dire assez, oh là là, mon Dieu, je n'ai pas ma situation de référence, comment je fais? Eh bien, en fait, il faut forcément créer une situation de référence. Donc ça peut être soit à partir des éléments qu'on a sur le terrain s'ils sont suffisants, soit à partir d'une offre de service qui va être proche, qui va nous permettre quand même d'avoir un peu une idée de ce vers quoi on va. Soit au moment où il va imaginer un concept, un nouveau concept de service et ses scénarios, eh bien c'est là qu'on va essayer d'obtenir notre situation de référence pour pouvoir déjà faire une première itération en se disant, ben, si j'imagine ce concept, ce scénario se déroulant comme ça, eh bien finalement, je vais identifier des impacts sur le cycle de vie et sur le déroulé, l'usage même de ce service. Et donc, cette situation de référence-là, je vais essayer déjà de l'améliorer avant même d'essayer de l'industrialiser et de commercialiser un service.
On parlait un petit peu plus tôt justement de la responsabilité du designer et de justement de la richesse de faire état de passeur entre des disciplines, entre des groupes humains ou entre des territoires. Est-ce que justement le rôle du designer n'est pas aussi d'accompagner l'évolution de certaines pratiques sociales? Et à quelle échelle, du coup, est-ce que c'est plus pertinent d'agir à échelle individuelle, collective, comportement,
Vaste question.
normes? Oui.
Ouais. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, pour moi, notre rôle, il est indispensable, mais en fait, en réalité, peu importe la discipline, le job dans lequel on est tous responsables là maintenant de ce qui est en train de se passer et de ce qui va se passer dans les années à venir. Donc, oui, on porte une grosse responsabilité, mais on n'est pas les seuls. Ça, c'est déjà quelque chose sur lequel il faut se rassurer, quoi. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas les seuls qu'il faut pas prendre sa part. Ça, c'est un point important. Après, c'est vraiment une question de sensibilité. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles à ça et ça va être compliqué de les pousser ou de les forcer à le faire. Il ne faut pas forcément d'ailleurs le faire. En revanche, si on a un minimum de sensibilité, assez vite, quand on met le doigt dans l'engrenage, on se laisse emporter et on a envie en fait d'en savoir plus et de faire mieux. Après, sur le spectre, entre guillemets, effectivement, de notre responsabilité, moi, je pense que tu as raison parce que justement, comme on touche en particulier en design de service à un grand nombre de dimensions, y compris économiques, sociales, etc., eh bien, on a un point de vue en tout cas sur ces dimensions-là. Et donc, continuer à faire un modèle économique comme on le faisait avant, sans regarder ses impacts, là aussi, sans regarder les externalités liées au modèle économique et sans essayer de faire un modèle qui soit plus vertueux, alors qui certes permettra peut-être de gagner un peu moins d'argent, encore que. Mais ça ne devrait pas être un problème, en fait. Si par ailleurs j'arrive à avoir des externalités plutôt positives, voire à être vraiment dans une dynamique de régénération, et ben c'est tout gagné. Et à la limite, gagner moins, financièrement parlant, ça ne devrait plus être un problème à l'avenir. Mais ça pose question, du coup, ça va loin, parce que si on détricote complètement le fil, le designer va se mettre, du coup, à questionner la stratégie des entreprises, la stratégie des collectivités. Va se mettre à questionner jusqu'à les fondements même de notre société, en réalité. Et donc, ça peut aller loin, et donc, ça repose aussi la question du positionnement du design dans ces structures-là. Aujourd'hui, encore, le design, il est très souvent positionné tout au fond de l'entreprise, comme, voilà, soit comme un élément plutôt esthétique, soit au mieux comme, effectivement, une démarche, un process qu'on applique, mais bon, pas plus que ça. Les entreprises, les structures même de manière générale, les organisations de manière générale qui ont pris la mesure de ce que pouvait apporter le design et qui vraiment l'intègrent maintenant dans leur stratégie, elles sont encore pas si nombreuses que ça en France. Or, on a vraiment un rôle à jouer là-dessus parce qu'on a cette perspective systémique multidimensionnelle. Et je pense que les questionnements qu'on amène et les démarches, les outils qu'on utilise peuvent aider aussi à faire accoucher ces structures, une fois de plus privées ou publiques, de solutions plus vertueuses encore, qui soient réellement utiles, une fois de plus, et qui s'inscrivent correctement dans les écosystèmes dans lesquels elles interviennent. Ça, c'est un point qui me semble vraiment important, c'est la place du design dans ces organisations-là. Comment faire en sorte de vraiment faire monter le design au niveau le plus haut de l'entreprise ou de la collectivité ou même de l'État, en réalité, pour faire évoluer les choses et pour faire en sorte que alors les designers, mais de manière plus générale, ceux qui s'approprient l'état d'esprit et les outils du design, pour faire en sorte de questionner notre société et de la faire évoluer de manière générale. Voilà, donc c'est vaste chantier et difficulté associée parce qu'aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup, malheureusement, les designers dans ces structures-là, parce qu'ils sont une fois de plus au fin fond, relégués au fin fond de l'organisation. Et pour moi, en fait, la difficulté, c'est ce que j'expose aussi dans mon livre, c'est qu'on a ce rôle, donc du coup, de faire monter en maturité les organisations sur c'est quoi le design et en quoi, vraiment, d'un point de vue stratégique, ça peut être utile, ça doit être mis en place pour faire évoluer les choses, mais on va avoir aussi de fait, du coup, tous, mais aussi les designers, une responsabilité sur la montée en maturité, sur les enjeux environnementaux, climatiques, biologiques, etc. Ça, c'est un point qui me semble important et ça va être une difficulté. C'est déjà difficile de faire monter en maturité sur le design, mais il va falloir en plus, en même temps, en parallèle, et même pas en parallèle d'ailleurs, de manière très entremêlée, faire monter aussi en maturité sur les enjeux. Plus environnementaux, et faire en sorte que, in fine, au niveau stratégique, on ait le design qui serve ces enjeux, qui serve les valeurs de ces organisations-là pour aller vers des produits, des services, des expériences, mais aussi plus globalement une société qui tourne mieux, tout simplement.
T'en as un petit peu parlé déjà des difficultés que on peut rencontrer du coup sur le terrain. Est-ce qu'il y en a d'autres que toi tu as pu rencontrer, je sais pas, pendant ton parcours ou vis-à-vis peut-être de Biwo?
Alors, dans mon parcours, oui, beaucoup de difficultés. Pas toujours surmontées d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi, en fait. Hein. C'est en tombant, tout simplement. Et en faisant face à des difficultés qu'on a parfois du mal un petit peu à passer outre. Les difficultés, elles sont assez multiples quand on est designer, en fait. Déjà, bon, faire comprendre notre métier, c'est toujours un challenge, peu importe qui on a en face. Et puis la partie service en fait de notre métier en tant que designer de service, elle est compliquée aussi parce que souvent on me dit oh, bah, toi du coup tu en gros tu interviens dans les banques, les assurances, enfin dans le tertiaire quoi. Ce qui est pas vrai déjà parce qu'on intervient aussi beaucoup chez les industriels et surtout ce qui est faux d'un point de vue croyance que dans le tertiaire on sait ce que c'est un service. Moi j'ai travaillé pour un assureur et cet assureur il parlait de produits d'assurance. Et pas de service. Et ça, c'est un point important. Hein. C'était vraiment produit dans sa tête. C'était, enfin, les gens avec qui j'ai travaillé en atelier, etc. C'était un produit. C'était physique. C'était, il y avait un contrat. Il y avait pas cette pensée, cette logique servicielle et expérientielle associée. Déjà, voilà, faut aussi expliquer en fait ce que c'est vraiment qu'un système de service, ce que c'est vraiment qu'une expérience de service, et que c'est aussi dans le tertiaire, mais aussi du coup chez les industriels. Les industriels, c'est des cas intéressants. Parfois un peu difficile mais intéressant parce que va y avoir plusieurs manières en fait d'aborder la logique servicielle chez eux. Il va y avoir des services associés aux produits, par exemple. Donc je vends une voiture et puis à côté de la voiture, je vais vendre des services associés comme on vient vous dépanner en moins de 2 heures si vous êtes en panne n'importe où en France. Et puis après, on peut monter en maturité sur la question des services et avoir carrément jusqu'à une vraie stratégie service. Qui s'installe chez l'industriel et jusqu'à vraiment transformer le modèle économique de l'industriel qui ne vend plus ses produits mais qui vend plutôt du service. Donc là, on se rapproche de tout ce qui va être économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Et ça aussi, en fait, c'est des processus qui sont lents souvent dans les entreprises et qui induisent beaucoup de difficultés pour le designer qui essaye de pousser des idées, pousser des éléments dans ce sens-là. Mais voilà, sans faire de théorie sur ces aspects-là, on fait vraiment face à des difficultés assez multiples qui vont être assez macro, comme celle-ci, et qui peuvent être plus micro au quotidien, sur faire comprendre notre métier, faire comprendre que à des métiers qui n'ont jamais échangé avec des designers, que non, on n'est pas juste là pour poser des post-it sur un mur, en fait, c'est pas ça notre job. C'est une infime partie de notre job, mais c'est souvent, enfin moi, ayant bossé chez un gros industriel, j'ai pas mal de personnes qui arrivaient en me disant, voilà, ah, on va faire des post-it. Ben non, pas aujourd'hui. Donc c'est voilà, faut aussi expliquer en permanence la démarche. Après, vis-à-vis de Bio, j'ai pas rencontré particulièrement de difficultés. En tout cas, dans sa construction, j'ai pas rencontré de difficultés parce que je savais vraiment précisément où j'allais. J'ai mis du temps, hein, j'ai mis des années avant d'accoucher de Biwo, mais je savais où j'allais, donc j'ai pas rencontré de difficultés. Et surtout, j'ai eu la chance et le bonheur dès la création de Biwo et dès ma reconnexion entre guillemets post-ex-CDI à mon réseau de re-rencontrer ou de rencontrer des gens juste formidables avec qui j'ai pu échanger, qui se posaient des questions équivalentes, qui portaient les mêmes valeurs. J'ai beaucoup de designers qui m'ont contacté en lisant mes posts sur les réseaux sociaux ou en découvrant mes travaux, mes conférences. Donc c'est déjà hyper agréable parce qu'on sait qu'on n'est pas seul. Ça, c'est un point important, en fait. Il faut savoir qu'on n'est pas seul. On est nombreux, en fait, à s'interroger sur ces éléments-là et à, voilà, à se poser des questions sur comment bifurquer, entre guillemets, c'est un mot qui, des fois, est un peu galvaudé, mais en tout cas, changer nos pratiques. Donc voilà, c'est plutôt que du bonheur, la création de Biwo. Là, les difficultés sont plus maintenant dans la diffusion au maximum de ce que peut être une démarche de Green Service Design. Pour toucher un maximum de structures, là aussi, entreprises privées ou collectivités, pour qu'on ait de plus en plus d'expérimentation et qu'on ait des exemples et que du coup ça puisse vraiment faire écho et que voilà et que le plus rapidement possible tout le monde se dise ben bah oui c'est vrai en fait Oui, c'est vrai, les services ont des impacts et en fait, il faut qu'on les regarde et il faut qu'on les minimise. On ne peut pas juste se dire j'ai éco-conçu ma bouteille d'eau et donc tout va bien, tout le reste du service d'hôtellerie, il est OK, quoi. Non, c'est pas vrai.
Ok, super. Est-ce que tu peux revenir justement sur la notion de renoncement? T'en as un petit peu parlé tout à l'heure.
Oui, tout à fait, et tu as raison, c'est un point clé. Aussi, et c'est aussi une difficulté à la fois pour le designer et pour celui qui reçoit un peu l'information du renoncement. On parlait tout à l'heure de responsabilité du designer. Quelque chose que je pousse beaucoup en conférence et à chaque fois que j'en ai l'occasion auprès des designers, c'est leur donner en fait, comment dire, la liberté de dire non. Et c'est compliqué en réalité, ça paraît rien. Mais comme tous les autres jobs d'ailleurs, on a l'habitude, et on a été formaté comme ça, de ne pas dire non, de ne pas dire non à un client, de ne pas dire non à un utilisateur, de ne pas dire non à un directeur. Et du coup, ça devient très compliqué, mais pour autant, je pense que c'est hyper important. Je le disais tout à l'heure, on est allé beaucoup vers des envies et moins vers des besoins fondamentaux parce qu'on n'a pas su dire non. Parce qu'on n'a pas su dire à un moment donné, dans un projet de design de service ou dans un projet du UX design ou peu importe, non, cette fonctionnalité-là, je ne la développerai pas parce que c'est pas. Enfin, vous la voulez peut-être, vous la trouvez peut-être fun, mais en vrai, elle n'apporte rien. Non, ce service-là, il n'a pas de sens, il a trop d'impact. L'équilibre entre ce qu'il apporte et les impacts qu'il a est trop fort. Le déséquilibre, plutôt, est trop fort. Donc non, ce service-là, il faut pas qu'il voie le jour, en fait. Surtout pas. Ou bien non, il y a des services équivalents qui existent. À quoi ça sert d'aller recréer le même à côté? C'est une vraie responsabilité. Alors c'est difficile pour le designer parce qu'une fois de plus, on n'a pas été formaté comme ça. Et c'est difficile pour celui qui l'entend parce que lui non plus n'a pas été formaté à recevoir un non. Et à devoir renoncer à un projet, à un client, à du business, tout simplement. Donc c'est très compliqué et en même temps, il faut qu'on arrive, nous, justement, à faire la preuve de pourquoi il faut renoncer. Pourquoi non, ce service-là, il ne faut pas le faire. Pourquoi ce scénario-là, il ne faut pas le faire. Pourquoi ce point de contact, donc cet élément physique ou numérique qu'on imaginait, il ne faut pas le faire ou pas le faire comme ça. Ça peut paraître très compliqué, mais pour moi, ça va vraiment, vraiment, vraiment faire partie de notre job à l'avenir, de savoir dire non, expliquer pourquoi, faire la preuve du déséquilibre, pour que du coup, in fine, ce soit la bonne décision qui soit prise.
Oui, effectivement, c'est toujours cette question épineuse autour des arbitrages entre la technique, l'économie, le social et l'environnement. Une question qu'on se pose beaucoup du coup au quotidien. En tout cas, je trouve ça génial parce que tu es très active dans une démarche de transmission. Je trouve que le livre que tu as publié du coup, Green Service Design, explique très bien ta démarche et est très accessible du coup. Il y a beaucoup d'outils qu'on y trouve et qu'on peut facilement du coup mettre en pratique. Donc merci pour ça. Et
Merci.
on termine toujours nos podcasts du coup par un mot à l'audience et une recommandation. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un documentaire ou encore un article que tu pourrais partager justement à notre audience pour qu'ils puissent aller creuser un petit peu plus encore le sujet?
Oui, alors côté documentaire, il commence à dater un peu, mais il y en a un que j'aime beaucoup, qui m'avait beaucoup touchée quand je l'ai regardé. C'est Breaking Boundaries, qui était sorti sur Netflix, alors je ne sais plus, il y a 2, 3 ans. Mais qui est hyper, alors déjà qui est basé vraiment sur des données hyper scientifiques et qui fait intervenir des scientifiques. Et il est très clair en fait sur ce qui est en train de se passer, sur la question justement des frontières et des limites planétaires et sur ce à quoi il va falloir s'attendre, hein, sur les conséquences. Donc ça, voilà, documentaire si vous ne l'avez pas vu que je vous recommande absolument. En termes de reco aussi, alors en particulier pour ceux qui nous écouteront et qui sont peut-être au début encore de ces réflexions-là, je vous conseille vraiment, mais vraiment, 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 de faire à minima la fresque du climat. Je dis à minima parce qu'il en existe plein d'autres et qui sont toutes super, mais pour moi, la fresque du climat, c'est la première à faire parce qu'elle est hyper pédagogique, ludique, malgré le sujet un peu difficile qui est traité. Et en fait, une fois qu'on a compris ce qu'est le changement climatique, quelles sont ses causes et ses conséquences, on a un peu les chakras complètement ouverts. Et du coup, à ce moment-là, on est prêt à recevoir plus d'informations, on est prêt à aller gratter, à chercher de l'info, chercher des ressources, changer nos pratiques. Enfin, ça déclenche quelque chose pour moi qui est intéressant. On le dit souvent, nous les animateurs de fresques, mais c'est la posture un peu de tête, cœur et corps. Il faut d'abord que je comprenne, il faut que ça touche mon cœur pour ensuite me mettre en action. Et la fresque, elle fait partie de ça pour moi, vraiment. Bon, après, il y en a d'autres, hein, vous pouvez faire toutes les autres fresques sans souci, je vous les conseille toutes. En termes de livres aussi, pour finir, moi, je vous conseille... Enfin, il y a plein de livres, il y en a tellement, en fait. C'est compliqué. Il y en a plein. Il y a le livre de Timothée Parik, par exemple, Ralentir ou périr, qui est intéressant. Il y a les ouvrages d'Alexandre Monin, et le master qu'il propose justement sur le design par l'Anthropocène, pour et par l'Anthropocène, qui est à Lyon avec Strat. Voilà, des ressources, on n'en manque pas en réalité. Il y a plein de livres, il y a plein d'articles, il y a plein de choses. Donc, si ça vous intéresse, prenez le temps juste de vous poser et de creuser, de contacter des personnes, que ce soit voilà, Valentine par exemple ou moi. C'est comme ça en fait, c'est en diffusant au maximum l'information et en échangeant ensemble qu'on arrivera à faire vraiment bouger les choses.
Super, merci Florie pour le partage, c'était vraiment très enrichissant.
Merci beaucoup, Valentine.
À bientôt.
À bientôt.